C'est la deuxième heure de ce 1147e Sweet Home Chicago, une deuxième heure qui sera entièrement consacrée à la première partie des souvenirs de Monsieur Jean-Pierre Vignola, illustré musicalement par Ben Webster et Coleman Hawkins, Lionel Hampton, Luther Allison, John Lee Hooker, Muddy Waters, Clark Terry et Etta James. Sweet Home Chicago. Jean-Pierre Vignola, bonjour.
Bonjour Marc.
Je suis très heureux de t'accueillir dans ce Sweet Home Chicago et il y a plein de choses qu'on a à se dire et tu as certainement plein de choses à révéler à nos amis auditeurs. Jean-Pierre Vignola, tu es un des acteurs du blues qui a connu une époque que nous, les jeunes types de presque 60 ans, n'avons pas connue. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des artistes qui nous font rêver parmi ceux qui ont disparu et qui ont compté pour le public blues des années 60, 70, 80, des gens que tu as pu non seulement côtoyer, mais faire tourner. J'aimerais savoir, Jean-Pierre, d'abord, comment tu en es arrivé là et quelles étaient tes occupations principales? Je crois qu'il s'agissait d'un volant, il s'agissait de quatre roues.
Non, c'est une question de hasard. Mon contact avec la musique, j'ai découvert déjà le jazz par Charlie Parker.
Oui.
Qui m'a un disque Savoy, Parker's Mood. Bon, je ne sais pas quel âge j'avais, 12-13 ans. Et puis un autre album, Ben Webster et Coleman Hawkins, c'était Blues for Yoland.
Tu te souviens des premiers titres que tu as écoutés
à
cet âge-là?
Ça, c'est une musique qui m'a interloqué. Il a fallu que je poursuive, que j'aille rechercher ça. Et puis avec des copains de lycée, on a fondé une petite association pour organiser des concerts à la Maison des Jeunes. Et voilà, c'est parti comme ça.
C'était à quel endroit ça à l'époque, Jean-Pierre?
Mantes-la-Jolie.
Mantes-la-Jolie. Et tu es resté fidèle à Mantes-la-Jolie parce que tu y résides toujours?
J'habite toujours Mantes-la-Jolie.
Voilà. Et alors, ça t'a emmené dans des contrées lointaines, ça t'a amené à voyager un petit peu partout en France et
oui,
certainement
mais,
au-delà.
Avant, on faisait ces concerts à Mantes et le président d'honneur de notre association était Alix Combel, un musicien français qui était à la retraite, un saxophoniste clarinettiste qui a eu son moment de gloire pendant quelques décennies. Et Alix me poussait à « Pourquoi tu fais pas le métier ? Pourquoi tu fais pas le métier ?» Bon. Alors j'étais son disque jockey, il avait un club au-dessus de Mantes. Mais moi, je travaillais déjà dans le bâtiment. Bon, je travaillais chez mon père et j'avais du mal à faire les deux parce que je rentrais souvent. Quand j'étais parti en goguette avec les musiciens, je rentrais à 4 heures du matin et il fallait être à l'usine à 6 heures. Donc, c'était difficile. Il a fallu que je choisisse et j'ai choisi de devenir saltimbanque.
Oui.
Donc j'ai essayé de me mettre à mon compte tout seul, ça n'a pas été simple du tout. Et j'achetais certains concerts à Jean-Marie Monestier, des disques Black and Blue qui organisaient des tournées. Et Monestier m'a proposé de le rejoindre dans sa société qu'il avait avec Jean-Pierre Tamazian. Et je suis rentré chez eux et j'ai été et là ça a commencé, donc chauffeur, livreur, sonorisateur, vendeur de disques.
C'est ce que j'allais dire, il y a impossibilité de trouver un nom de métier pour ce qui te qualifie. Tu étais un peu l'homme à tout faire.
On faisait tout.
Tout le monde faisait tout.
Étions artisans.
Ouais.
C'était pas
ouais.
comme maintenant avec toutes les techniques modernes et tout.
Toute la noblesse de l'artisanat qui caractérise effectivement les débuts de ce label, Black and Blue. On est à quelle période là? 1970 par
70, là début 70. 70 oui.
Très bien. Donc il y a déjà un petit peu plus d'un demi-siècle. Et ces gens-là qui étaient les acteurs parmi ceux qui organisaient la venue des bluesmen américains.
Alors, Monestier et Tamazian avaient comme principe, ils faisaient venir des artistes qui étaient tombés un peu dans l'oubli, qui n'étaient plus à la mode ou quoi que ce soit. Et ça faisait énormément plaisir aux amateurs. À l'époque, il y avait un grand circuit en France d'associations de musique, jazz, blues. Et on parcourait la France, on allait même la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande. C'était avec notre camionnette Peugeot. Ne pas faire de publicité. Et puis après, on s'est agrandi, on a une seconde camionnette, c'était un C35, donc aménagé, avec la soute. Dans la soute, on mettait sono, bagages, instruments, et on voyageait avec 8 personnes. Voilà, c'était... Et on vivait ensemble, c'était c'était très intéressant parce qu'on vivait avec les artistes pendant 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, et la plupart sont devenus des copains.
Est-ce que ça correspond au premier Chicago Blues Festival qui ont démarré, je crois, en 1969?
Non, moi j'y étais pas. C'est Monestier qui avait organisé ça. Je me souviens d'un. Alors je sais plus si c'est le premier, mais j'avais été au lycée d'Evreux voir MC James. Mm-hmm. MC James qui était un Chicago Blues. Voilà.
Et alors, donc ces tournées qui étaient organisées, toi, tu étais partie prenante en tant que chauffeur au départ, mais...
Chauffeur, livreur, sonorisateur, on faisait tout.
Tu faisais tout, et ça veut dire que tu allais te coucher après les musiciens, après avoir démonté, débranché les amplis, la table de mixage, etc. C'était quoi le matériel ? Je m'intéresse à ça, parce que je sais que ça intéresse certains auditeurs.
Matériel, au point de vue, bon, on avait une batterie Gretsch, je crois.
Il fallait tout apporter, il n'y avait rien sur place, c'est ça ?
Oui, il n'y avait rien sur place.
La sono, on adaptait tout, le micro.
Alors, on avait des Fender, des Twin Reverb, un Bassman Fender, un B3, Hammond.
Avec la cabine Leslie, peut-être.
C'était le pire, ça. Parce que quand on arrivait sur place, il y avait toujours quelqu'un pour t'aider.
Oui, mais après, 3h du matin.
Après le concert, c'était un peu plus difficile. Donc, avec les musiciens, Mill Buckner, etc., on se tapait le B3 à recharger dans la camionnette.
Et donc, alors, on sent dans tout ce que tu nous dis, Jean-Pierre, voilà, cet esprit d'artisanat, cet esprit presque d'amateurisme, finalement. Et en fait, ça a donné lieu, votre action, vos concerts, l'organisation de tout ça, ça a donné lieu quand même à des passions par milliers, parce qu'il y a des milliers d'Européens qui ont découvert les artistes américains grâce à ce que vous avez fait. Ça avait déjà été le cas quelques années plus tôt par Horst Lippmann et Rao, les tournées L plus R American Folk Blues Festival à partir de 1962, mais voilà, ça se limitait à quelques
concerts. Capitale, c'était des grandes villes. Oui.
Mmh. Et puis effectivement, Paris par exemple, mais la province n'était pas impactée. Ah, et puis vous avez réussi à toucher un public un peu plus provincial.
C'était un peu bon, c'était plus simple que l'American Folk Blues, mais bon, on allait à Limoges, Orange, Bayonne, Angoulême, c'était Mantes-la-Jolie.
Alors comment on faisait, parce qu'on va quand même rappeler à nos plus jeunes auditeurs qu'en 1970-71, il n'y avait pas Internet, on avait inventé le téléphone déjà depuis longtemps, mais c'était à peu le seul média qui
téléphonait,
était
efficace. On téléphonait et puis on écrivait et voilà. Alors j'ai connu un peu tout, le téléphone, le téléx, le fax, avant de venir avec Internet et le téléphone portable.
Tu viens de citer un artiste, Milt Buckner, un artiste qu'on a tendance à classifier dans le jazz. Et pour toi, c'est un bluesman. Comme certains autres artistes que tu me citais tout à l'heure, il y a différentes façons de lire et d'écouter le blues. Il y a celle du puriste qui va dire, lui, il vient de Chicago, lui, il vient du Mississippi, lui, il vient d'Arkansas, Californie, donc il va faire tel style. Et puis, il y a aussi une appropriation des musiques blues par des artistes qui n'en sont pas forcément au départ. Quel est ton analyse de ça ? Je voudrais savoir qu'est-ce que toi, Jean-Pierre Vignola, tu penses du fait de classifier différentes musiques.
Le blues, c'est le blues.
C'est quoi du blues ? C'est quoi le blues ?
Ça me rappelle Illinois Jacquet qui me disait, quand tu sais jouer le blues, tu sais tout jouer. Ouais. C'était un saxophoniste ténor, un Texas ténor qui avait un son énorme. Et de son vrai nom, Jean-Baptiste, il avait eu un coup de génie dans un chorus avec sur le morceau Flying Home, quand il était dans le big band de Lionel Hampton.
Thank you.
C'était les V-disques, c'était donc pendant la guerre, et c'est ce titre qui l'avait propulsé en tant que vedette, et c'est un bluesman. Bon, il était de Louisiane aussi, hein, donc il a fait un titre, je crois que c'est Blues for Louisiana, voilà, qui est du blues.
Alors, il y a d'autres artistes comme ça qui sont plutôt qualifiés de jazzmen. Alors, tu viens de citer Illinois Jacket, on parlait de Milt Buckner. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à des gens comme Jimmy Witherspoon qui...
Non, j'ai plein d'autres noms qui...
Alors, on y va.
J'ai aimé Ramsey Lewis, Kenny Burrell. Ce sont des artistes qui sont connus dans le jazz ou Ramsey Lewis un peu funky. Mais quand ils se mettent à jouer le blues, c'est le blues. Bon, Count Basie.
Alors, je crois que lui, c'est ton artiste de chevet. C'est celui que tu continues à écouter.
J'adore Count Basie, oui, toujours.
Et pourquoi Count Basie? Son jeu de piano, sa gouaille, sa personnalité, le fait qu'il joue avec
musique,
un big band.
Oui, sa musique, ça m'a subjugué. Puis j'ai quand même commencé à connaître certains de ces musiciens qui sont devenus des amis, qui me l'ont présenté. Enfin bref, c'était une histoire d'amitié. Le jazz et le blues, c'est une histoire d'amitié. C'est une musique de copains.
Le blues et le jazz sont deux musiques sœurs. Elles sont deux musiques qui sont nées l'une de l'autre. Moi, je me demande, et je vais te poser la question à toi, qui a ta propre vision, j'imagine, de qu'est-ce qu'il y a eu en premier dans les chants de coton? Qu'est-ce qu'ils chantaient les esclaves? Du gospel? Du blues? Du jazz?
Non, les chants spirituels. Ce qu'on dit, le chant de travail, des mélopées. Pour peut-être les aider à supporter leur peine, leur douleur. Et ils se retrouvaient, c'était peut-être leur plaisir aussi. Ils chantaient le blues, on chante la joie, mais la tristesse également, la peine. Et bon, et ça a évolué.
Et on s'encourage avec
petit
ça.
À petit.
On s'encourage, on s'endurcit au
je
travail.
Je pense, oui, complètement, ouais. Complètement.
Est-ce que c'est une discussion que tu as pu avoir avec ces bluesmen américains, pour certains qui étaient des pionniers? On peut citer John Luker, Muddy Waters, B.B. King, qui sont des gens qui ont connu également eux-mêmes ces conditions misérables. Est-ce que ça, c'était pas tabou quelque part dans les conversations?
Non, on en parlait. Mais on parlait beaucoup de la ségrégation, du racisme. J'ai J'ai toujours en souvenir, dans l'orchestre de Duke Ellington, dans les années, fin des années 20, il y avait Barney Bigard. Et Barney Bigard était très clair de peau, vraiment très clair. Et c'est lui, quand si le bus est tombé en panne de gasoil, c'est lui qu'on envoyait à la pompe à essence pour être sûr qu'il soit servi.
Ah oui, ouais.
Et il y a eu les big bands mixtes, et ça c'était incroyable, parce qu'il y a eu une partie qui couchait dans un hôtel et l'autre partie dans un autre hôtel. Ouais.
Ça me rappelle une anecdote citée il y a quelques jours dans Sweet Home Chicago par Benoît Blueboy, qui me racontait une tournée qu'il avait vécue avec Lifton Chénier, où on voulait bien qu'il monte dans le bus parce que c'était quand même pratique. C'est lui qui descendait pour aller dans l'épicerie, pour aller chercher le whisky, parce que sinon les gars ne se faisaient pas servir. Quoi.
Ah oui, c'est
ça veut dire que dans les années 70, c'était encore ça.
Ah oui.
Hein
oui.
Et alors, là, tu
dans certains endroits.
Dans certains endroits, dans le sud vraiment profond. Ça nous ramène, tu parlais des années 20, on parle bien sûr des années 1920, un gars comme Al Jolson, qui était un blanc déguisé en noir pour mieux chanter le jazz.
Oui,
le chanteur de
ça,
jazz.
Ça, c'est autre chose. Oui.
Si ça avait été un noir, il n'aurait pas pu le faire à l'époque, c'est ça l'idée?
Non, je pense peut-être, oui, oui.
La ségrégation, le fait, effectivement, on l'a bien compris, que tout ce combat que les Noirs ont mené durant toutes ces années et qui n'est, à mon avis, pas encore terminé.
Pas du tout. Voilà, ça continue.
C'était un sujet de conversation, alors, vraiment, avec ces artistes.
Entre nous, oui, parce qu'on avait certaines... Oh, mais j'ai vu, nous, on a... C'était avec une tournée qui s'appelait Harry Edison, Billy Mitchell. Je me demande si Joe Williams n'était pas là. Et on s'est fait agresser dans une cafétéria en Allemagne. Et là, bon, on a tombé la veste. Et je me suis aperçu que parce que j'étais le plus jeune. Et que les papis, ils avaient encore de la ressource.
Ouais.
C'était des skinheads allemands qui nous avaient agressés, racistes.
Des skinheads. Dans les années 70, voilà, les gens qui étaient...
Les années 80.
80, crois,
oui, 80 oui.
Et donc en Allemagne, il y avait toujours ce...
Partout
ce
d'ailleurs,
Roland,
partout. Ah bah, à ce niveau-là, j'ai une anecdote.
Oui, Jean-Pierre.
Je suis avec le big band de Lionel Hampton. On arrive à Bayonne. Donc moi, j'avais réservé les chambres d'hôtel par Telex. Nombre de chambres, une suite pour Hampton. Bon bref, nombre de chambres, j'avais mis les noms, etc. On arrive en bus devant l'hôtel. Je descends avec ma liste pour faire ce qu'on dit la room église, pour avoir les numéros de chambre. Je commence. Et là, à la réception, ils commencent à voir les musiciens arriver. Il y avait des blancs, il y avait des noirs. Ils sont excusés, monsieur, on n'a pas de réservation pour vous. Alors j'ai eu beau sortir les Telex, les confirmations et tout. Et ben, ils nous ont pas permis de rester parce qu'il y avait des blagues.
Et donc, tu es persuadé, toi, que si
c'est
les
ça,
musiciens
oui.
étaient restés dans la camionnette...
J'ai raconté l'anecdote le soir, en présentant le concert. J'ai demandé à l'organisateur si je pouvais, et il m'a laissé... Et j'ai cité le nom de l'hôtel.
Tu penses que si les musiciens étaient restés dans la camionnette en t'attendant, les chambres auraient été prêtes sans souci?
Je pense, oui. Mais il y aurait sûrement eu un problème.
Après
je pense. Oui.
Incroyable.
Alors, il a fallu trouver des chambres dans différents hôtels, tout. Bon, bref. Mais ça a été assez pénible à supporter. Je me suis pris un mal un plaisir à citer l'hôtel et à raconter l'anecdote le soir au concert.
J'imagine bien, oui.
Et puis il y a eu l'article dans le journal, ils ont...
Voilà,
sans citer le nom de l'hôtel. Hein.
D'accord. Mais, Donc le journaliste n'a pas été jusqu'au bout de ce que tu as pu dénoncer, en fait. Hein. Et comment avait réagi le public ce soir-là, tu t'en souviens?
Ah ben, ça a été les sifflets, tout. Ils étaient avec nous.
Comment est-ce que tous ces artistes-là, là c'est une question vraiment générale sur l'ensemble des tournées que tu as pu organiser et puis vivre de l'intérieur. Comment est-ce que le public français et ou européen recevait tous ces artistes-là?
Ah ben, les artistes, ils étaient heureux de venir en France, parce que, principalement en France, parce qu'ils étaient accueillis comme des rois. Bon, ils étaient accueillis, même le sideman inconnu, c'était une vedette.
Même s'il n'y avait pas de limousine. Il y avait la camionnette, quoi. C'était,
oui. Hein. Bah, les tournées Chicago Blues, par exemple, bon, on allait à Limoges, à Orange ou quoi que ce soit. On était invité par l'organisateur, soit au restaurant ou soit chez lui, à dîner, à déjeuner. Et le musicien était traité. Pour lui, c'était impensable. Oui, c'était le paradis, oui.
Et alors, le public français, puisque tu parles de ces villes, principalement, on est en région à l'époque, plus de 40 ans. C'est des gens qui n'ont pas eu encore l'occasion, j'imagine, de voir des musiciens noirs américains. Comment est-ce qu'ils ont reçu tout ce que vous leur apportiez?
Bah, c'était le plaisir pour tout le monde, le plaisir pour l'artiste et pour le public. Il y avait une communion, c'était vraiment Il y a eu des soirées fantastiques. C'était le... Et à tel point, les artistes, quand ils revenaient aux États-Unis, j'ai toujours souvenir, Fred Bilot, sur l'affiche, ils demandaient au club dans lequel ils jouaient $1 de plus, et c'était marqué de retour d'Europe.
Ah, ça se monnayait, ça.
Parce que lui, l'artiste, aux États-Unis, il avait un autre métier, parce qu'il n'en vivait pas. Bilot était éboueux. Big Voice Sodom était chauffeur de taxi. Il prenait les vacances. Ils prenaient leur congé pour pouvoir venir jouer, faire des tournées en Europe.
Oui, ils s'arrangeaient avec le patron pour pouvoir avoir quelques semaines off, entre guillemets.
Off, oui, oui. Donc non payé, mais ils gagnaient plus d'argent à venir en tournée avec
évidemment,
nous.
J'imagine bien. Voilà. C'était peut-être un peu ça, entre ces artistes-là, se dire, oh là là, toi tu vas en Europe, tu vas te baisser, tu vas trouver l'or, quoi.
Tant qu'il y a eu, évidemment, il y avait quelques vedettes, mais on parlait tout à l'heure, les problèmes qu'on a vus en Allemagne, Joe Williams, qui était déjà une vedette aux États-Unis, c'était un grand nom, un chanteur qui chantait à Las Vegas et tout, c'était du parti des grands, donc il devait avoir un salaire autre.
Ouais, conséquent. Il y a des artistes qui n'ont pas fait forcément une très très grande carrière aux États-Unis et qui ont bien réussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Parmi ceux dont tu m'as donné la liste, il y a Luther Allison. Est-ce que tu peux nous parler
Luther Allison était un peu connu aussi aux États-Unis.
Un peu, oui, mais il a fait quand même l'essentiel. Enfin, je pense qu'il a vendu beaucoup de disques quand même en France, notamment.
En Europe, oui. Ouais. Ils sont quelques-uns, Lucky Peterson, par exemple.
Oui, aussi, oui.
Luther Allison, ça c'est une chanteuse qui s'est vraiment développée en Europe, c'est Didi Bridgewater. Et ça, Luther Allison, on l'avait pris, alors c'est où, 75 ou 76. On l'avait fait venir, sa première fois qu'il venait, il a pratiquement fait toutes les premières parties de Johnny Hooker. On avait Johnny Hooker également en tournée, et Luther faisait la première partie.
Let your son do like my daddy did. Oh, love me, Papa. Your son wanna do like his daddy did. I want you to bring me up like Big Forest Odom. I don't like to be messing around with other folks' kids. You know when it's early in the morning, Daddy, I see you make Mama get up and go to work with you. See when it's all in the moon. I see you make Mama get up and go to work with you. I know you're a hard working man, but I love my mama the same way I love you. Now, Daddy, I'm gonna have to talk to you a while, okay? I said, Daddy. I said, Daddy. I don't like the way you love my mama today. I love my mama the same way I love my daddy too.
16 years old, that is. Daddy, I just wanna get along with you. I'm gonna play this guitar like you worked the cross cut saw, Dad. Watch me now. I really love you too. I finally left down in Arkansas. I found a farm in France, and Paris is where I might live. I love you. Mama, I love you. Sister, I love you. Brother, I really love you. But please let Luther have one chance.
Est-ce que, alors Luther Allison, qui était tout jeune à l'époque, qui est en 39, mais si mes souvenirs sont bons, Johnny Hooker, lui, c'était déjà une grosse vedette quand même.
Ah oui, oui, ouais. Oui, mais il a eu son petit trou. Il était au creux de la vague dans les années 70, début ouais. 70 et tout. Et moi, j'avais été étonné. Il était assis à côté de moi dans la camionnette, alors que je dansais dans les surprises parties avec les copains, je dansais sur Shake It Baby et puis boum boum. Hein. Mm. Et j'étais tout étonné de, et tout fier en plus. Conduire Johnny Hooker.
Oui, parce que ces titres-là que tu cites sont sortis vers 62-63. Et donc, à cette époque-là, jeune ado, tu t'étais déjà branché avec ces musiciens-là. Et les voir 15-20 ans après, pouvoir travailler avec eux, travailler pour eux, c'était quelque chose que tu ressentais comment? Alors, comme un honneur, comme une fierté?
Oui, comme, oui, comme un honneur, ouais. Comme une fierté. C'était incroyable. Bon,
c'était quoi le genre de conversation qu'on pouvait avoir avec un Johnny Hooker?
Avec Johnny Hooker, pas beaucoup.
Non.
Pas beaucoup de conversations. Alors, il n'avait pas de bagages, il n'avait qu'un attaché-case, ça c'est mon souvenir, ça m'avait frappé. Et dans l'attaché-case, il avait un caleçon et un t-shirt, et tous les soirs, il se lavait son linge, mais il n'avait rien, il n'avait qu'un attaché-case et sa guitare.
Mais il restait voilà, propre sur lui, ouais. Toujours élégant.
Ouais, il faisait la lessive tous les soirs.
Très bien.
But you, nobody, say you been one time, one time for me. Shake that thing, baby, one time for your dad. I love it. You cook it with gas. Honey, you work it. You got the pops on and the gas.
Et alors, puisqu'on est dans les grands noms, lui nous a quittés...
Le premier grand nom, c'est... Parce que bon, Black and Blue, on faisait nos tournées, mais on a travaillé avec George Wynne. George Wynne qui avait fondé la grande parade du jazz. On intéressait George Wynne parce que lui, à l'époque, en Europe, il avait déjà une trentaine de festivals. Hein. Il est fondateur de Newport, le festival de la Nouvelle-Orléans. Et il faisait tous les ans une tournée qui s'appelait Newport en Europe. Mais il faisait les capitales. Il avait été assez étonné de notre circuit, nous, dans petites villes, etc., avec des musiciens plus ou moins connus. Et on l'avait intéressé. Et donc, on a collaboré. Et c'est lui qui m'a envoyé en tournée avec Muddy Waters. On est parti, on était deux road managers. On est parti avec Muddy Waters, Sonny Rollins et McCoy Tyner en tournée pour cette fameuse tournée Newport en Europe. Et nous, on a gardé Muddy Waters pour aller dans nos petites villes, etc. Je suis resté 6 semaines avec Muddy et ça a été terrible.
Ça, c'est de la tournée. Vous êtes passé par Nice, j'imagine.
On l'a eu, Muddy, à la grande parade du jazz.
La grande parade du jazz,
oui, absolument. Ouais. Ah ben, j'ai un souvenir de ça, Muddy, avec Clark Terry. Ouais. Le Stormy Monday avec Clark Terry. Ça m'a toujours plu parce que Clark Terry avait fait la même chose avec T-Bone Walker et ça, au Japon, et ça avait été enregistré par Norman Grant. Clark était venu jouer avec Muddy, ça avait été... Et il me semble, si vous allez sur YouTube, vous pourrez voir le film. Jean-Christophe Aperti a filmé ça. Mmh. C'est sur le net. Oui.
T-Bone Walker nous a quittés en 1975.
Alors, oui, mais Muddy, c'était, comment dirais-je... Bon, je vais parler franchement.
Ah oui.
C'est un enfoiré, il trichait aux cartes.
Tricher aux cartes.
Tous les soirs, dans la loge, ils jouaient. Alors, je me souviens plus qu'est-ce que c'était comme jeu. Ils m'avaient appris. De par contrat, ils demandaient une bouteille de champagne. On buvait la bouteille de champagne ensemble en jouant aux cartes. Et ils trichaient comme un arracheur de dents.
C'était du poker, non?
Non. Je me souviens plus ce que c'était comme jeu. Moi, ils m'avaient appris. Donc, on jouait. Il y avait Pint Up Perkins, Calvin Jones. Ouais. Et donc, on jouait aux cartes une demi-heure, hein, trois quarts d'heure. On jouait aux cartes et on buvait la bouteille de champagne.
Et en une demi-heure, ça lui suffisait pour plumer tout le monde autour de la table.
Il n'y avait pas d'argent, c'était non. Juste pour le plaisir.
Ah d'accord. Bon,
mais il aimait gagner. Il aimait gagner.
Muddy Waters, à cette époque-là, je pense que ça correspond au fait que Johnny Winter avait pris un petit peu sa carrière en charge. Il y a eu les derniers albums de Muddy Waters chez Blue Sky Records. Tu as remarqué la présence de Johnny Winter dans ces tournées-là ou non? Il était carrément
non.
Absent.
Non.
N'était pas vous.
Et la seconde, on a fait Muddy Waters et quelques dates, mais dans les Montreux, les grands festivals, avec Johnny Winter.
Ouais.
Ils étaient venus à Nice.
D'accord, c'est ça. Donc,
Et Johnny Winter avait une exigence d'un vin blanc introuvable. Et il avait fallu, je sais plus quoi, un vin blanc autrichien. Enfin bref, c'était un caprice de star.
Stormy Monday, come on to me. But Tuesday is just as bad. Call it stormy Monday, but Tuesday is just as bad. And third day is all so sad. The eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Saturday, I go out to play. Sunday, I go to church, and I kneel down and pray. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Yeah.
fast I go out the plane. T-Bone Walker recorded that years ago. The great T-Bone Walker. The eagle flies on Friday. I'm sad I go out the plane. Until I hit a guitar, then I get on my knees.
Des caprices de stars, il y en a eu quelques-uns. J'imagine aussi, il y a peut-être une histoire que tu pourrais nous raconter avec une certaine Etta James.
Oui, je te l'ai raconté la dernière fois. Ça
sera avec plaisir qu'on entendra une nouvelle fois.
Oui, Etta James, qui, on sait comment, bon, lié d'amitié, c'est un grand mot, mais on s'est apprécié à cause du vin blanc. Voilà, c'était une buveuse de blanc, moi aussi, et elle voulait du vin blanc. Son manager, on s'est un peu accroché parce qu'il trouvait que le vin blanc que j'avais amené n'était pas suffisant. J'ai défendu mon vin blanc et j'ai gagné. On est devenu copains avec Etta et on s'est pris quelques cuites.
D'où le titre maintenant qu'elle a popularisé par la suite, qui est connu dans le monde entier, c'est I'd rather be blanc. Hein, c'était ça.
C'est pas mal le mot. C'est pas mal.
Something told me it was over, babe. When I saw you and that girl talking, babe, something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same girl walking by, oh, yeah. And I would rather I would rather be a blind girl, babe. Than to see you walk away, walk away from me, baby. Oh, yeah. Cause you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave me, babe. And another thing is, I just don't wanna be free, no, babe. Oh, no. Now listen. I was just sitting here thinking, yeah, about your sweet kiss. Whoa, and your warm embrace, baby. Oh, yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips, baby, yeah. Reveal the tears that was on, oh, my face, yeah, babe. Oh, yeah. Baby, 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 baby. I'd rather be a blind girl. Oh, I'd rather be a blind girl. And to watch you walk away from me, boy. Look out. Oh. Oh. I'd rather be a blind girl than to watch you walk away from me, baby. Don't leave. Now listen, I'm gonna tell y'all one more time. I was just sitting here a minute ago thinking, baby. I was thinking about your sweet kiss and your When I looked down in the glass that I held to my lips, I was looking in the glass and I saw the reflection of the tears rolling down my face. Oh, babe! Oh, babe! Oh, baby, I'd rather be a blind girl. Thank you. I'd rather. I don't wanna watch you leave me. I can't stand to see you go. Whoa, babe. I'd rather be a blind girl.
C'est la fin de ce 1147e Sweet Home Chicago. On retrouvera la suite des souvenirs de Jean-Pierre Vignola dans l'émission du 21 mai. Aujourd'hui, c'était illustré par Ben Webster et Coleman Hawkins, Lionel Hampton, Luther Allison, John Lee Hooker, Muddy Waters et Clark Terry et Etta James. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 13h. Notre invité sera Fred Mae. Salut, bye bye. Sweet Home Chicago.